Ça y est, tu enregistres là.
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et pour collection particulière du questionnement de Stéphane Bonnefoy sur l'accélération dans l'art contemporain du recours aux animaux vivants, empaillés, mutilés. Si les animaux hantent l'art, comme le faisaient déjà dans les années 1970, remarquaient Gilles Deleuze et Félix Guattari, aujourd'hui le phénomène prend de l'ampleur. L'utilisation de l'animal dans l'art s'est fortement radicalisée, après le cinéma, qui s'était déjà offert de cruelles scènes d'abattage avec Fassbinder, Franju ou Pasolini, la part sacrificielle semble aujourd'hui avoir disparu au profit d'une représentation plus crue, réaliste. En 2001, à Berne, Xiao Yu présente, dans du formol, une tête de fœtus humain greffée à un corps de mouette. En 2006, Abdel Abdessemed montre une série de vidéos où une main tenant une massue abat froidement un mouton, un cheval, une biche, un porc et un bœuf. En 2008, les vidéos passent inaperçues en France. Elles font scandale peu après à San Francisco. D'autres expériences sont cours. À l'instar de la métamorphose de Kafka, ils sont plusieurs artistes aujourd'hui à entrer dans cette zone profondément mystérieuse. En disséquant les insectes à sa manière, l'écrivain Pierre Bergougnoux, en se faisant transfuser du sang de cheval, Marion Laval-Janté, en imprégnant ses partitions de sons d'animaux, le compositeur François-Bernard Mache, sans compter l'historien de l'art Bernard Lafargue ou l'artiste Françoise Petrovitch.
D'une certaine manière, j'aurai jamais de trahison tant que je serai dans le domaine de l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans la découverte de l'autre animal qui est de l'ordre du renouvellement constant, d'un élargissement constant de la conscience, sans avoir jamais la déception d'une mauvaise surprise, puisque c'est infiniment grand.
Là, on voit des chiens avec une drôle de tête. Une petite fille qui a l'air punie, qui regarde à côté. Un garçon qui lui donne un coup de revolver. Une qui porte un sac de commission. Un oiseau.
J'ai tenté l'animal. Je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que je vais continuer à vouloir effectivement fusionner.
Voilà, une femme allongée, comme un accident. Une motocyclette. Une fille, une femme, une fille, une femme.
L'animal est-il en moi ou couché à mes pieds?
Voilà, ce sont des cuts, hein. Ça se monte d'une manière très, très brutale comme ça. Un papillon.
L'animal est-il devant moi ou à jamais derrière?
Et un oiseau qui devient une femme, les grands cheveux.
Es-tu à mes côtés ou prêt à me dévorer?
Un oiseau couché, un oiseau mort.
Je tiens l'écriture, le fusil et la laisse. Tu gardes le silence, au risque de ta nuit.
Une espèce de forme bizarre.
Animal inspirant, bête inconnue. Si tu parles, je te tue.
Une femme couchée avec des ailes d'oiseau à la fin. Pareil, tout est rouge.
Sur les docks. Des artistes dans le monde animal. De l'animal machine à l'animal fusion. Une petite histoire contrariée de l'animalité au siècle des loups.
Voilà, un chagrin, on est en boucle et on recommence.
Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck.
Ça m'a toujours dit que je leur appartenais.
Marion Laval-Janté.
Voilà. Et que tout le monde ne leur appartient pas. Ça, c'est un drôle de truc. Mais dans ces systèmes-là, tout le monde n'appartient pas aux animaux. Et si vous leur appartenez, c'est que vous avez une nature un peu particulière. Alors, cette nature, je la traite par l'art. Parce que finalement, l'art devient un outil qui permet à cette nature d'exister à une époque où on n'a plus la possibilité d'avoir ça socialement. Vous voyez, par exemple, dans les systèmes traditionnels, quand vous aviez un chaman, il appartenait aux animaux. Bon, mais il était chaman et il y avait un système pour tolérer socialement d'avoir cette personne qui était entre la société et les animaux, qui faisait le lien, y compris avec l'invisible, etc. Et du coup, il n'y avait pas de souci. Mais dans notre société, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de faire de l'art pour être, justement, pour appartenir aux animaux? C'est pour ça que, d'une certaine manière, j'ai une vision de l'art qui est presque prophétique. C'est-à-dire que je pense que les gens qui font un art qui inclut les animaux dedans sont dans une logique où, une logique réparatrice, une logique où ils essayent de faire prendre conscience à l'homme de quelque chose.
Pierre Bergugno.
Une chose me frappe dans la civilisation contemporaine, urbaine, c'est le fait que la plupart de nos semblables, de nos compatriotes, concitoyens, n'ont plus de rapport avec l'animal ou avec l'animalité, si ce n'est par le biais fort étroit de ce qu'on appelle les animaux domestiques, à savoir principalement le chat chez les intellectuels et le chien dans les milieux populaires. Tout ce qui concerne l'abattage des animaux s'est trouvé relégué dans ces mêmes enclaves où, par exemple, nous avons repoussé la mort par suite de l'abaissement des seuils de la sensibilité collective à partir de la Renaissance. Le fait d'apporter sur la table la bête tout entière, le porc rôti, le paon qu'on avait même pris le soin de revêtir de ses plumes. Tout cela aujourd'hui nous heurte et la chair de cette matière première que constitue l'animal nous parvient sous la forme de barquettes en polystyrène recouvertes de cellophane ou de plaquettes parallélépipédiques de poissons dans les bacs des magasins de surgelés. Il me semble qu'on s'éloigne à grands pas du monde animal avec lequel on a eu une relation quasi symbiotique pendant les dizaines, peut-être les centaines de milliers d'années.
Jacques Derrida.
Il n'y a pas quelque chose comme l'animal. Et déjà, le fait de ranger tous les vivants non humains sous la catégorie homogène et universelle de l'animal est une absurdité philosophique et une violence, et le début de la violence. Donc, il n'y a pas l'animal. Il y a le mot animal, je propose de parler de l'animal, ce qu'on appelle l'animal, c'est-à-dire ce mot d'animal sous lequel on classe absolument toutes les organisations du vivant qui ne sont pas nous. Eh bien, ce rapport au vivant non humain a une énorme histoire, et avant Descartes et avant le Moyen-Âge, encore chez Montaigne, ce rapport n'est pas empreint de la violence objectivante et cruelle qui sera la marque de la modernité.
Dans sa deuxième méditation métaphysique, Descartes se pose la très grave question de savoir quel il est. Que suis-je donc ? Il hésite, enfin j'espère, j'imagine, un très court instant, avant d'écrire de sa plus belle plume en latin « Nihil sum », « Je ne suis rien », assorti d'une clause restrictive, « Nisi », si ce n'est, suivent trois mots. Je ne suis rien, si ce n'est, res cogitans, une chose qui pense. Intellectus, un entendement, ratio, une raison. Nous sommes ces êtres qui se regardent comme les seuls dépositaires de toute culture, de toute intentionnalité, et qui les refusent aux plantes, aux roches, aux bêtes. Et le rationalisme a pour fondement ceci que nous mettons d'un côté l'esprit et de l'autre tout ce qui n'est point lui, ce que Descartes appelle simplement l'étendue. Et dans l'étendue, Descartes place les animaux qu'il qualifie, on le sait, d'animaux-machines. On peut pratiquer la vivisection puisqu'ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas véritablement qu'ils souffrent. C'est une formule de je ne sais plus trop qui, de Graham Greene, je crois. Ça ne fait jamais qu'un peu plus de souffrance dans le monde. Bon, on a mis un peu d'eau dans le vin pur du rationalisme, mais quant au fond, notre attitude vis-à-vis des animaux demeure effectivement cartésienne. Oui, et donc je suis cartésien.
Ce cartésianisme, cette pensée du cogito depuis laquelle on déduit une certaine théorie de l'animal, commande de façon directe ou indirecte, philosophique ou non, toute la modernité de notre rapport à l'animal. L'animal, objet, victime naturellement de traitements qui ont toujours été cruels mais qui dans la modernité aggravent singulièrement la cruauté, de l'animal qui ne parle pas, ne répond pas surtout. Ce qu'il faut dire, c'est que Descartes ne tient pas l'animal simplement pour incapable de signifier, de produire, de répéter des signes, mais incapable de répondre, à une demande, à une question précise.
L'utilisation, enfin, la question de l'animal, c'est pas une question d'utilisation. Ça, c'est une chose sur laquelle on est un peu solitaire, mais très sur laquelle on met beaucoup l'accent en herbiothèque. Pour nous, ce qui est très important, c'est plutôt de comprendre l'autre et nous-mêmes à travers l'autre. Ce qui oblige effectivement à élargir à la notion d'animal, mais aussi parce que on se considère nous-mêmes comme des animaux. Moi, je suis absolument persuadée qu'il y a très peu de différence entre moi et les animaux, si ce n'est des différences de communication et de conception de l'histoire. Et j'ai l'impression que les animaux vivent dans l'immédiateté, ils n'ont pas cette vision culturelle et historique des choses. Et finalement, je pense que je suis très proche d'eux de ce point de vue-là. Je vis énormément dans la question de l'immédiateté. Je crois à la fluctuation des choses pour les laisser avancer, et j'utilise l'histoire avec parcimonie. Connaissance, mais parcimonie.
Jusqu'où peut-on se rapprocher de l'animal ? Quelles ont été les expériences que vous avez menées, Marion Lavalgenté ?
Waouh ! J'ai toujours eu des expériences très fortes avec les animaux. On a vécu un moment en forêt de Fontainebleau, dans une maison assez isolée, et on récupérait énormément d'animaux sur le bord de la route qui étaient éclopés, abîmés, morts. Bon. On les gardait, s'ils étaient morts dans des congélateurs, on les conservait. S'ils étaient vivants, on essayait de les restaurer, de les sauver. Donc on a vécu avec des chouettes dans la chambre à coucher. Enfin bon, c'était un peu le Capharnaüm. J'ai toujours eu besoin de cette proximité. Et je dirais la frustration essentielle, c'est... Ils ne sont pas nous, je ne suis pas eux. Donc même si on a une proximité, on reste dans l'inconnu l'un de l'autre. Ensuite, on a passé un pas qui était très très capital, je dirais en 2001. Moi, j'ai passé un pas qui consistait à m'initier dans des systèmes pygmées, où il se trouve que dans l'initiation, on fait une approche de la mort, où en général, un totem se manifeste, et ce totem est un animal. Donc... on a un saint patron qui est un animal. Je me suis retrouvée avec un saint patron, un gorille. C'est comme si par ce système chamanique, on communiquait avec. Et même jusqu'à une fusion, puisque ensuite le chaman en chef nous disait, tiens, si c'est cet animal qui s'est manifesté, c'est parce que c'est ton directeur. Voilà, c'est ton animal directeur. Et puis à un certain moment, je me suis dit, bon, tout ça reste quelque chose qui touche le mental. Est-ce qu'on peut toucher le physique ?
Y a-t-il un animal, Pierre Bergugno, auquel vous vous identifieriez ?
je me suis identifié à tout ce que j'ai tué. Aussi étrange que cela puisse paraître, bon, on en revient à cette étrange, louche proximité entre le chasseur et sa proie. Je crois que chaque fois que j'ai commis ce crime de tuer des animaux à sang chaud, je pense que c'est un peu de moi que j'ai exterminé dans ce geste fou et de surcroît superflu. Néanmoins, il y a une gradation dans le degré auquel on peut s'identifier à ce qui n'est point nous, à des animaux. Elle joue à plein pour les gros animaux, les animaux à sang chaud, ceux en qui nous reconnaissons notre propre humanité, ceux dont l'œil se ternit, ceux dont le sang chaud nous passe les mains. La sensation à la fois de joie criminelle et d'horreur que j'ai ressentie lorsque j'ai porté la main sur la première bête que j'avais tuée, et que j'ai senti que d'un seul coup, j'avais toute la paume poissée de sang. Il m'en est resté à la fois le souvenir d'instants proprement extatiques et un remords dont je pense que je ne me déferai jamais maintenant que je mesure la gravité du crime que j'ai perpétué. Je n'avais pas faim. Je ne sais pas de quoi cela procède. Freud parle quelque part d'une pulsion d'emprise. Ce besoin que nous avons de vérifier que nous exerçons bien quelque pouvoir sur l'environnement qui nous est alloué.
Je sais que ça ne va pas vous plaire, Pierre Bergogneau, mais je vais paraphraser Gilles Deleuze. Est-ce que l'écrivain est toujours aux aguets comme l'animal ?
Oui, sûrement. Deleuze a raison, oui. Il y aurait pour le coup chez ceux qui s'obstinent à porter le vif ou le tout venant de l'expérience sur le papier quelque chose de l'inquiétude, au point où j'en suis, de la terreur dans laquelle semblent vivre les animaux. Oui, il y a une sorte d'inquiétude, les animaux vivent dans la crainte, ils savent qu'ils sont éventuellement, et même dans la plupart des cas, des proies. J'ai observé des oiseaux au sol, ils donnent deux coups de bec dans la terre pour y prélever des graines ou des vers ou je ne sais trop quoi, et dans la seconde qui suit, ils redressent la tête pour parcourir le paysage environnant et s'assurer que nul péril ne s'annonce. Et oui, j'ai peut-être bien sous ce rapport quelque obscure parenté avec, je ne sais pas, les corbeaux, le pivert, peut-être les insectes. La vie s'accompagne d'une inquiétude, sauf que le seul moyen que j'ai trouvé d'y échapper ou de l'atténuer quelque peu, eh bien, ce serait de recourir à l'encre et au papier.
Au musée de la chasse et de la nature, Paris.
C'est la salle du sanglier, donc on arrive là dans cette salle, et puis on va passer dans la salle des armes.
Donc vous vous êtes diffusé ici, Françoise Petrovitch, de manière très singulière, très discrète.
Alors il y a cette poupée en verre qui est dans la vitrine, c'est une grande poupée de verre soufflé, et il y a là justement un petit animal accroché, presque à la place du bras qui lui manque, puisque... Il y a les fusils pointés contre elle, comme ça, dans cette salle. Et puis ici, il y a des lapins témoins, ce que j'appelle les lapins témoins. C'est des petits personnages, enfin je dis personnages, mais je ne sais même pas, qui sont assis, comme ça, sur la console de marbre, là où il y en a un aussi, vous voyez là-haut. Voilà. Et ils ont l'impression... Enfin, c'est vrai que les animaux sont aussi des témoins, finalement, puisqu'ils sont muets. Enfin, ils sont là, ils nous accompagnent dans notre vie, mais ils ne... a priori, on leur donne pas de dialogue possible, donc ils sont... J'aime bien cette idée d'avoir des animaux témoins, figurés. Un peu comme, d'ailleurs, c'est assez courant dans la peinture, quand on voit les chats de Balthus, par exemple, qui assistent aux scènes, qui sont toujours en retrait, mais en même temps, on sait qu'ils ont vu. Voilà, ils ont vu de quoi il s'agissait.
Donc ils sont un peu notre conscience ou notre...
Ça peut être ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Finalement, ils ont quand même un regard.
Bernard Lafargue, quelle place occupe l'animal depuis l'après-guerre ?
Alors, je crois qu'il faut faire une première remarque, c'est que l'art abstrait qui a dominé la première partie du XXe siècle est un art qui va en quelque sorte purifier les pratiques artistiques de toutes les figures, et notamment les figures de personnes humaines, mais également les animaux. Alors, ce qui va se passer, c'est que après la guerre, en effet, on va avoir un retour de ces formes d'animalité. Et ces formes d'animalité dans l'art vont être reliées à plusieurs perspectives. La première serait, en effet, que l'homme, voulant se purifier, s'est montré monstrueux. Et donc, au fond, il a pris la place qui était réservée à celle de l'animal. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, c'est peut-être une première manière de voir ce retour de l'animalité après les deux guerres mondiales.
Et là, c'est le cabinet de porcelaine où j'ai réalisé une série d'estampes. Ce sont 12 gravures. Donc, c'est un service de table, mais en papier. Donc, c'est gravé sur cuivre et gaufré. Et ce sont des petites scènes où le prédateur devient la proie. Tout est inversé.
Par exemple, qu'est-ce qui se passe ici ?
Ah ben là, c'est un faucon qui tue des gens avec une carabine dans un étang. Et donc, les gens sont censés voler et ils tombent dans l'eau. Voilà. Impossible. Et là, c'est la salle des oiseaux. Donc, c'est une salle qui est entièrement dédiée à François Desportes. Donc, ce sont des études d'oiseaux. Et j'ai installé des peintures un petit peu disséminées comme ça dans l'accrochage. Ça s'appelle « Filles et garçons aux oiseaux ». Donc, ce sont des enfants et c'est des jeux un peu cruels avec les oiseaux. Elles mangent carrément un oiseau comme à cru, comme ça. Donc, je me suis confondue un petit peu avec ses études.
Petite fille, elle...
Elle le croque. Non,
elle croque l'oiseau.
Elle le mange, oui. Et lui, il l'étrangle, regardez. Et l'autre, là-bas, il est mort. Mais en même temps, on dirait un pistolet qui est couché. Elle est couchée aussi. On dirait presque qu'elle est morte. Et à côté, il y a un oiseau mort. Et j'avais l'impression, quand je l'ai fait, après, je me suis dit, tiens, c'est comme si c'était un petit pistolet. C'est presque un suicide.
Quel est ce siècle des loups, Pierre Bergugno ?
Alors, c'est une formule qui tend à rassembler en un mot la contribution du dernier siècle à l'aventure humaine. Alors, à partir de la fin du Moyen-Âge, chaque siècle a été baptisé. Le 16e, c'est la Renaissance. Le 17e, du moins en France, c'est le grand siècle, c'est-à-dire la mise en place de l'absolutisme. Le 18e siècle, c'est bien évidemment le siècle des Lumières. Le 19e, celui des Révolutions. Comment qualifier le 20e ? Certains siècles de l'histoire longue ont été ténébreux. Bon, le plus noir pour ce qui concerne la France, le 20e excepté, c'est le 15e siècle. On a en même temps la guerre anglaise, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, on a la peste noire et la famine. Au résultat, la moitié de la population descend au tombeau. Mais le XXe siècle peut disputer avantageusement la palme au XVe siècle, puisqu'on a eu, autant qu'ils me souviennent, deux guerres mondiales, deux guerres coloniales pour la France, au Vietnam d'abord et puis en Algérie, une crise économique planétaire. Donc, oui, le loup qui a été la bête héraldique des contes, eh bien, a peut-être disparu sous les espèces animales qui étaient les siennes tout le temps que, eh bien, il a dévasté les campagnes. Mais alors, c'est nous qui aurions repris en quelque sorte le terrible flambeau et qui, lorsqu'il semblait qu'il ne dût plus y avoir que du bonheur à espérer, comme le dit Alain Fournier dans Le Grand Môle, ce soit l'abomination de la désolation que, pareil à des loups, nous avons répandu tout autour de nous entre le 3 août 1914 que le malheur commence et je ne sais trop quand qu'il finit ou semble finir, alors qu'il me semble qu'il est toujours là, tout proche, présent et menaçant. Oui, le siècle des loups, le 20e siècle.
Alors ici, on est dans le cabinet du loup. Donc je suis partie du thème du chaperon rouge, parce que c'était une façon d'entrer dans le sujet. Ce sont les pieds du chaperon rouge qui restent quand le loup est passé. Donc ce sont des pieds complètement rouges, complètement ensanglantés en émail. Et qu'on découvre que si on ouvre ce petit tiroir. Thank you.
malheureusement des pointes de distorsion assez gênantes. C'est un enregistrement fait par Gunn au Canada.
François Bernard Mache.
Voilà, par exemple, un très bel enregistrement fait par Claude Chapuis en Afrique, d'un oiseau que j'aime énormément, le cossif à ailes bleues, qui est très, très surprenant parce qu'il a non seulement un art de la construction musicale, mais aussi un timbre d'instrument humain, si j'ose dire.
Ces chants ou ces sons d'oiseaux, on parle des oiseaux, des baleines ou du brame par exemple aussi, du cerf. Pourquoi est-ce qu'ils fascinent autant l'homme ?
Mais peut-être parce que l'homme y reconnaît justement une certaine parenté. C'est chez les meilleurs chanteurs, et ils sont quand même très minoritaires. Il y a quelques 10 000 espèces d'oiseaux, tous ne chantent pas. Et parmi ceux qui chantent, il y en a quelques centaines seulement qui peuvent être comparés à des musiciens. En quel sens ? Parce qu'ils ont un chant individuel. Au lieu d'être un automatisme qui signifie l'espèce, ils inventent individuellement un chant qu'on peut reconnaître, à la fois comme appartenant à l'espèce, mais aussi comme différent et qui est renouvelé chaque année, de façon inventive, souvent très inventive même.
Utiliser ces sons d'oiseaux, notamment, c'est renouer aussi avec une sorte de primitivité, c'est ça ?
Non, j'ai écarté la mythologie chrétienne de l'oiseau comme messager du ciel et j'ai écarté aussi l'aspect mythique de l'oiseau. Je ne suis pas Siegfried ou Tirésias, je ne fais pas de l'ornithomancie. J'ai essayé d'accepter l'oiseau, quand il y a des oiseaux dans mon œuvre, comme une présence, je dirais pas technique, ça serait trop froid, mais comme une présence vivante, analogue à celle des musiciens, sans vouloir laisser mon imaginaire partir ailleurs que vers la musique.
Pourquoi les artistes, à l'exception de quelques compositeurs, on peut citer Clément Jeannequin ou Olivier Messiaen, sont-ils si peu intéressés à cette musique animale, entre guillemets ?
Ben, ils s'y sont intéressés, mais il y avait un tabou, il y avait un interdit social. On n'avait pas le droit de considérer que l'animal pouvait être l'équivalent de l'homme, donc c'était contraire à tout l'enseignement biblique. Il y avait une malédiction du monde animal qui fait qu'on pouvait s'amuser à faire semblant d'écouter les grenouilles d'emplâter le rameau ou le rossignol, à condition que ce soit un rossignol en amour qui ne ressemble pas à un vrai rossignol. Je pense à Couperin ou à d'autres compositeurs. Mais en réalité, les compositeurs ont beaucoup écouté le monde animal. Il y a des transcriptions, pas seulement de Messiaen au XXe siècle, mais de Ravel aussi, par exemple. Seulement, c'était longtemps quelque chose de considéré avec beaucoup de mépris. L'oiseau est ni plus ni moins un musicien particulier, une ressource sonore particulière que j'assemble avec les autres musiciens dans le même espace.
Un instrument ?
C'est ça, un instrument en quelque sorte. Il n'est pas au-delà, comme dans beaucoup de musique pittoresque, il est là, sur scène, avec d'autres. Alors le haut-parleur, évidemment, est l'instrument indispensable pour ça.
Pas d'oiseau en direct sur scène ou dans les orchestres ?
Trop risqué. D'abord, l'oiseau il est très capricieux, il n'en fait qu'à sa tête, à sa petite tête. Vous voulez que je vous fasse entendre, par exemple, comment j'ai utilisé l'aspect rythmique de certains oiseaux. Voilà, par exemple, une perdrix rouge qui m'est apparu comme un rythmicien tout à fait intéressant.
Il y a beaucoup de variations dans ces chants.
Il y a beaucoup de variations et cet oiseau-là m'intéressait aussi parce que j'ai longtemps enseigné le grec ancien et j'avais lu dans un poète grec qu'il avait appris la musique en écoutant le chant des oiseaux. Et alors en particulier la perdrix rouge, elle a des rythmes grecs, longue, brève, comme ça, de façon assez irrégulière. Donc je crois que ce que disait Alkmann, qui se revendiquait comme l'élève des perdrix, était littéralement exact. Et j'ai ensuite manipulé ça en croisant, faisant de la synthèse croisée avec des bruits d'abeilles, ça donnait ça. Et puis je m'en suis servi dans une pièce où pour la première fois j'ai utilisé la présence enregistrée de l'oiseau, donc en l'orchestrant. Et toujours à partir de ce rythme de perdrix, dans Rituel d'oubli, ça donnait par exemple ça.
Qu'est-ce que l'étude des insectes vous a appris, Pierre Bergogneau ?
Infinité de choses. Ce sont de petits maîtres, mais capables de nous administrer de profondes, de puissantes leçons. Une des œuvres les plus géniales que je sache est la métamorphose de Franz Kafka, qui, par un de ses rapprochements prodigieux, à associer sur le papier naturellement les deux choses les plus incompatibles ou les plus éloignées qui soient, à savoir d'un côté un corps d'insecte enfermé dans son exosquelette mu par ses six pattes d'une part, et puis d'autre part eh bien mais la pensée. Kafka est celui qui va chercher un blaps mortifère, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Nabokov, qui était un entomologiste de talent et qui, ayant lu la métamorphose, a identifié celui d'entre les insectes que Kafka avait choisi pour devenir le réceptacle de l'âme de Grigor Samsa. Et puis de l'autre côté, eh bien cette aptitude que nous avons de pénétrer les arcanes de toute situation, si terrifiante, horrible qu'elle puisse être, et d'en rendre compte par le langage articulé. J'ai un peu disséqué et la grande surprise que l'on a lorsqu'on ouvre un insecte, c'est d'abord que la moelle épinière se trouve sur la face ventrale et non pas comme chez l'homme, sur la face dorsale. Et que lorsqu'on arrive à l'extrémité, au lieu de découvrir l'espèce de bourgeonnement monstrueux du cerveau, on constate qu'il n'y a rien. Donc c'est quelque chose de très éloigné, nulle pensée, un instinct qui peut plonger dans une admiration sans borne les créatures pensives que nous sommes. Bon, c'est tout le sens de l'œuvre du grand Henri Fabre. Il n'est donc rien dont ils ne soient capables. Ils peuvent, par exemple, paralyser par des piqûres chirurgicales d'autres insectes, déposer leur ponte en eux, à laquelle il procure de la viande qui restera fraîche, puisque la proie est toujours vivante, mais privée de mouvement. Ils ont une sorte de souci de l'après. Leur vie a pris fin, ils durent très peu de temps. Mais, leur descendant sera assuré de disposer de quoi atteindre à son tour le stade parfait. Voilà, c'est un monde qui, dans son étrangeté même, est gros de toutes sortes d'enseignements concernant les autres biais par lesquels la vie peut se hasarder dans l'existence. Ce peut être également un objet projectif, un véritable test de Rorschach, l'âme inquiète de Kafka. Et enfin, un objet de délectation esthétique. C'est tout ça pour moi.
Marion Lavalgente, existe-t-il un lien de parenté entre les artistes de l'art biotechnologique et art orienté objet que vous avez créé avec Benoît Mangin ?
Un certain nombre d'artistes sont partis vers les terrains de la biotechnologie au milieu des années 90 et il se trouve qu'en France, on faisait partie de ces artistes-là. À l'époque, on était du reste très isolés. Je sais que tout le monde trouvait ça extrêmement bizarre et que... C'est étrange, mais l'art biotech était quelque chose qui, pour les gens, était éthiquement non viable, très choquant, qui touchait vraiment à des secteurs qui pourraient inquiéter, l'eugénisme, Dieu sait quoi. Donc c'était, voilà. Il se trouve qu'on a fait des expériences d'art biotech, un certain nombre. Comme elles n'étaient pas toujours comprises, on a continué aussi à faire en parallèle des expériences qui n'étaient pas spécifiquement d'art biotech. Mais en tout cas, il y avait toujours un point commun entre toutes ces expériences qui était la curiosité pour le vivant. Le fait qu'on s'attardait sur la question du vivant. Alors, est-ce que c'est un pur fantasme ? J'ai appris très vite que les laboratoires européens ne pouvaient de toute façon pas m'autoriser à faire de l'auto-expérimentation, pour des raisons justement éthiques. Donc je me suis tournée vers ces laboratoires pour faire de la recherche, mais je me suis tournée vers des laboratoires extra-européens pour comprendre... comment effectivement pouvoir m'injecter un sang animal et jusqu'à quel point et pourquoi et comment, enfin tous ces moyens-là. Et en fait, j'ai appris très vite que effectivement il y avait des éléments qu'il fallait forcément retirer du sang, mais il y avait des éléments qui pouvaient être conservés. On ne connaissait pas véritablement les conséquences à long terme, ni vraiment à moyen terme, mais enfin à court terme on connaissait, qui étaient notamment toutes ces protéines qui véhiculent des informations d'un organe à l'autre. Qu'on appelle les immunoglobulines, puis aussi les cytokines, les alarmines, toutes ces protéines-là. Et il se trouve que ces protéines, on les a classées, parce qu'on sait parfaitement quelles sont celles qui s'adressent à quel organe. Et donc je me suis adressée à un laboratoire, où ils m'ont dit, nous on travaille avec le cheval, le mouton, le cochon, des animaux de ferme. Et j'ai dit, le cheval, ça m'intéresse franchement, parce qu'il y a une mythologie fabuleuse sur le croisement de l'homme et du cheval. Pas seulement du reste une mythologie gréco-latine avec le centaure, mais même si on va en Indonésie, il y a comme ça une figure dans le Mahabharata d'un homme-cheval qui est la figure du chaman capable de marcher sur les cendres et les braises. Et en fait, l'homme qui va faire ça prend la figure d'un cheval qu'il endosse comme un gros sac à dos pour aller marcher sur les braises. Alors, il y avait comme ça une espèce de côté épique, un peu fou, un peu hystérique dans l'idée du cheval qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai dit, le cheval, c'est certainement très loin de nous, très loin de nous primates, et donc ça doit être une expérience passionnante. Et à partir de là, je me suis rapprochée de ce laboratoire, et puis j'ai commencé à travailler, on va dire, chaque immunoglobuline, d'une manière quasi homéopathique l'une après l'autre, pour voir comment je réagissais, comment j'éliminais les choses, si je faisais des chocs, jusqu'à subir... l'hiver dernier, en février, en Slovénie, une injection beaucoup plus massive de toutes les familles ensemble, d'immunoglobulines. C'est-à-dire vraiment toutes sortes d'informations qui allaient toucher directement mes organes d'une manière quantitativement importante et modifier forcément mon comportement d'homme vers un comportement inconnu finalement.
Donc je ne vais pas le remélanger, mais je vais prélever peut-être dans la partie...
Haute ou basse?
À mon avis, haute, il n'y a pas vraiment d'éléments cellulaires.
Oui, c'est
donc,
trop...
Donc je vais prélever dans la masse, au milieu.
D'accord. Manière, tu appelles MS?
Un mélange ancien,
d'accord.
Mélange frais et culocellulaire.
D'accord, ok.
Voilà.
L'être humain est certainement le plus métissé de tous. Si vous prenez l'animal, il est régi par un code génétique assez strict, avec ce qu'on appelait au XVIIIe siècle des propres, c'est-à-dire des propriétés, c'est-à-dire des instincts. Et quelqu'un comme Rousseau disait que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme, lui, n'a pas de propre. Alors, ce qui peut paraître un défaut par rapport à l'animal, donc il n'a pas de propre, il n'a pas d'instinct, va se révéler une qualité. Pour employer une formule mnémotechnique, on pourrait dire que parce que l'homme n'est propre à rien, il est propre à tout. Et les artistes contemporains relancent un effet ou font revivre, plutôt, font survivre, dirait quelqu'un comme Warburg, font survivre les chimères. Et je crois que ça nous pose plusieurs questions. Alors, les artistes de BioArt, ils posent la question de la préséance ou non du règne humain par rapport au règne animal ou au règne végétal. Il y a un certain nombre d'artistes du bioart qui font des performances où ils se transfusent de sang provenant d'autres espèces animales pour montrer la compatibilité. Compatibilité que vous trouvez dans les greffes d'organes. Greffes d'organes qui souvent proviennent d'animaux comme le cochon, comme le poulet. Donc je crois que là, on assiste aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler, par rapport à la Bible, vous vous rappelez donc ce fameux passage où Dieu fait de Adam, donc l'homme, le mâle, son porte-parole, et il en fait en quelque sorte le maître de toute la création. C'est lui qui nomme, c'est lui qui domine la femme, les enfants, et puis tous les êtres vivants. Je pense que par rapport à cette hiérarchie, on assiste aujourd'hui plutôt à une volonté de transgénèse, par rapport à la genèse, c'est-à-dire l'idée d'une parenté, biologique, d'une parenté vitale entre tous les êtres vivants. C'est-à-dire que de la plante à l'homme, il y a une grande similitude.
Alors, il y a beaucoup de gens qui s'étonnaient parce qu'en même temps, dans la performance, il y avait une dimension éthologique où je marchais avec des prothèses qui me permettaient d'être à la hauteur du cheval et qui imitaient la jambe arrière du cheval. Et en fait, tout ce travail-là était un travail parallèle que j'avais fait avec une éthologue, Sabine Rouas, qui était un travail d'accoutumance du cheval à moi et de moi au cheval, parce que je n'avais rien de spécifiquement proche du cheval, je n'ai jamais été une cavalière. Donc il y avait cette espèce de désir de comprendre en même temps vers quoi j'allais éventuellement. Et puis c'était aussi une manière de me distraire de la folie que j'étais en train d'accomplir. C'est-à-dire il fallait surtout pas que je pense trop pour pas amplifier la réponse immunitaire au fait que je venais de m'injecter quand même une sacrée dose d'éléments étrangers dans mon corps. Donc on a fait tout ce travail. Et puis ce qui est très singulier, c'est qu'effectivement au départ on a une réponse inflammatoire, on est très agité, on a beaucoup de fièvre, on n'est pas dans une réponse spécifiquement chevaline. Il faut que les immunoglobulines aient commencé à véritablement faire ce travail de communication pour que 2-3 jours plus tard, là il se passe des choses étranges. Et il a commencé à se passer des choses franchement étranges dans mon corps. Déjà j'arrivais pas à dormir d'une manière très normale. Je faisais des cycles extrêmement courts d'une heure, puis je restais éveillée une heure, puis je dormais une heure. Puis à la fin de la nuit, j'avais dormi peut-être 4 heures. Je mangeais énormément, mais d'une manière complètement disséminée, jamais d'un coup. J'étais extrêmement nerveuse. Je me sentais très puissante, ce qui était complètement absurde, surtout que je dormais pas. En même temps, quand on me tapait sur l'épaule, je faisais des bonds de 2 mètres. J'étais terrifiée par toutes sortes de choses. Et les vétérinaires m'ont dit « Ah oui, bah, ce que vous nous décrivez, c'est normal. Le métabolisme du cheval est différent. Donc oui, le cheval ne dort pas en continu. Le cheval dort par à-coups, il se réveille, c'est du reste pour ça qu'il peut dormir debout. Et oui, le cheval ne mange pas un seul repas, il mange par à-coups, un peu tout le temps. Et effectivement, il est à la fois très fort, physiquement parlant, très puissant, et ultra nerveux et très très peureux. Ces choses-là qui sont normalement incompatibles avec notre mentalité d'humain, de primate, d'un seul coup devenaient possibles. Ce qui veut dire que j'avais par exemple à la fois ce sentiment de puissance et de peur, ce qui est complètement absurde pour un primate. Quand vous êtes puissant, normalement, vous n'avez pas peur, vous êtes plein de confiance. Et j'ai compris, j'ai véritablement compris, mais au-delà du mental, j'ai compris physiquement ce qu'était cette altérité. J'ai ressenti véritablement une altérité. Et je dirais, ça a à la fois donné une richesse, un poids à ce qu'était l'incarnation animale, l'autre, et à la mienne. Parce que finalement, elles se valorisaient l'une l'autre par leurs différences. Ce qui était très fascinant. Et je me suis rendu compte qu'en psychologie, on nous apprend toujours à lutter contre cette notion de peur. On donne des anxiolytiques aux patients, on les rassure, on n'arrête pas de parler d'autonomisation pour qu'il n'y ait surtout pas de peur de la dépendance, de peur de l'attachement, de peur du devenir et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'à la suite de cette expérience, j'ai revalorisé cette notion de peur. Et donc il y a une possibilité d'évolution à travers la peur et aussi une possibilité de conservation. Je pense qu'on n'écoute pas assez ces peurs non plus et que cette espèce de tendance qu'on a dans notre société à parler énormément de la peur, tout en nous disant que ça nous rend justement imperméables à la peur et qu'on devient indifférent. Moi, je crois au contraire à la valeur de ne pas devenir indifférent et d'utiliser la peur. Et si on devient imperméable, c'est que justement on n'a pas appris à l'utiliser. Et je crois que le cheval sait mieux l'utiliser que nous, en fin de compte.
Pensez, Elisabeth de Fontenay, par exemple, de cet artiste avant-gardiste, on ne voit que lui actuellement à la télé, Eduardo Cac, qui expose d'énormes lapins fluorescents, des animaux monstrueux génétiquement déformés, des squelettes, et au nom de l'art, alors, c'est aussi une espèce de chosification de l'animal.
Ça, c'est des choses qui se multiplient, des expositions de ce genre, des installations de ce genre se multiplient. Je trouve ça parfaitement ignoble. Et en particulier quand ces artistes, entre guillemets, travaillent avec des chercheurs dans des laboratoires comme l'INRA. Alors, ces gens-là disent, mais c'est formidable parce que, comme ça, la recherche et les expériences génétiques ne sont plus simplement utilitaires. On gomme l'utilitarisme inhérent à ces expériences et on en fait quelque chose de désintéressé. Je trouve ça, premièrement, totalement grotesque et, secondement, parfaitement ignoble.
Justement, la philosophe Elisabeth Neufontenay a qualifié d'ignoble cette connivence entre les chercheurs de l'INRA et certains artistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement ?
Oh, ben pas grand-chose, parce que j'aime beaucoup Elisabeth Neufontenay, mais le fait est que elle parlait d'Eduardo Cac, mais en l'occurrence, il n'y avait pas de connivence, enfin comment dire ça ? Eduardo Cac, il a simplement emprunté un objet lapin qui était un objet de recherche, qui existait à plusieurs centaines d'exemplaires à l'INRA. Il a fait cet exploit qui était intéressant, qui était d'introduire un objet biotechnologique mais existant dans un laboratoire qu'il n'a pas créé, bon, qui était la création de chercheurs, et il a redéfini autrement le ready-made. Bon, ça devenait un ready-made scientifique. Manque de peau, il était vivant et c'était un lapin. Mais bon, donc la question, est-ce qu'on a le droit de le sortir du laboratoire ou pas, posait toutes sortes de problèmes. Alors, je ne sais pas si c'était ignoble. Ça voudrait dire que la recherche que les chercheurs font est ignoble. Alors pour moi, ça c'est un vrai point de problème, effectivement, qu'on a traité exactement la même année du reste en 99, parce que justement on avait travaillé avec des gens de l'INRA, et notamment aussi avec des gens de l'Institut Cochin de génétique moléculaire, c'est-à-dire avec Axel Kahn, à Cochin, et on avait travaillé sur ces questions de l'animal cloné, et sur du coup l'usage de l'animal de laboratoire. Et on avait donné à cette recherche la forme d'un film et la forme d'une installation où on retrouvait un lapin qu'on avait pris dans une poubelle, qui était simplement un lapin saigné pour la science, qu'on a bêtement taxidermisé à l'arsenic, hein, très simple. Et puis on avait tricoté ces organes avec de la laine qu'on avait réussi à obtenir du Roslin Institute écossais par le biais d'Axel Kahn, qui était la laine de Dolly, la fameuse brebis clonée. Puis alors, c'était pas une mince affaire d'obtenir cette laine. Et on avait fait une espèce de lapin fétiche, comme ça. Et tous ces organes finissaient par... la laine tricotée de ces organes partait sur les murs écrire des phrases, qui étaient des phrases tirées, justement, d'un article scientifique qui légitimait l'usage de l'animal dans la recherche médicale. Et alors, bon, ben voilà, c'était juste quelque chose de très factuel. Oui, on tue des animaux, on fait de la recherche sur eux, et ça sert à l'homme. Il n'y avait pas véritablement une notion de condamnation. Il y avait une exposition du phénomène. Et pourquoi il n'y avait pas de condamnation? Parce que je suis incapable de dire si je condamne ça. Au sens où, bien sûr, je suis moi-même le produit d'une société qui a évolué, et peut-être que je suis en vie aujourd'hui à cause d'expériences qui ont été faites sur des animaux avant. Donc qui serais-je pour condamner ça? Cependant, je continue à trouver ça dérangeant. Donc je suis dans cet entre-deux, ce fameux entre-deux, qui pour moi est vraiment le lieu où on peut travailler sur le plan du sensible, puisqu'on n'arrive plus à travailler sur le plan du philosophique ou de l'éthique, puisqu'il y a toujours des camps qui s'affrontent et que les deux sont défendables. Si personne ne fait ce travail sur le sensible, on ne fait plus qu'un travail sur le mental. Ce qui serait en soi une erreur. On n'est pas des êtres purement conceptuels. On est aussi des êtres incarnés et on est terriblement sensibles.
Sinon, rien de spécial.
C'était Sur les docks, des artistes dans le monde animal.
Homo sapiens, merveille de l'univers, dans l'Odyssée, je suis juste le meilleur ami du chien.
Avec Marion Laval-Janté, Françoise Petrovitch, Pierre Bergougnou, Bernard Lafargue et François-Bernard Mach.
Sinon, rien de spécial. Envoyez les aliens.
Prise de son, Patrice Klein et Adrien Gazin.
Dans la nature humaine.
Mixage, Olivier Dupré.
Non, rien de spécial.
Archivina, Cécile Rode.
Envoyez les aliens.
Attaché de production, Christine Gage et Laure-Hélène Plancher. Coordination, Irène Omelianenko et Michel Pomarin. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck.
Hey!
Vous pouvez retrouver ces artistes contemporains face au monde animal sur le site de l'heure du documentaire. Demain à 17h, ce sera Tué de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian.